bonjour à tous les Auroviliens. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre fabuleux qui s'appelle « Les fondements de la culture indienne » de Sri Aurobindo. L'on pourrait toutefois prétendre que tout cela ressortit au mental et que si l'intellect, l'imagination et le mental esthétique de l'Inde furent d'actifs créateurs, sa vie extérieure n'en fut pas moins morose, terne, pauvre, ses couleurs assombries par l'ascétisme, dépourvues de volonté et de personnalité inefficace, nulle. Cette proportion serait difficile à avaler. Certes, la littérature, l'art et la science ne s'épanouissent pas dans une absence de vie, mais là encore, quels sont les faits? L'Inde possède une liste interminable de saints, de sages, de penseurs, de fondateurs religieux, de poètes, de créateurs, d'hommes de science, d'érudits, de légistes, mais elle est aussi ses grands souverains, elle a eu aussi ses grands souverains, ses administrateurs, ses soldats, ses conquérants, ses héros, hommes dotés d'une volonté puissante et dynamique. Ce que leur mental concevait la force visionnaire en eux, la force visionnaire en eux l'édifiait. Elle a guerroyé et gouverné, fait du commerce et colonisé, répandu sa civilisation, élaboré des systèmes politiques, organisé des communautés et des sociétés. Elle s'est livrée à toutes les activités extérieures qui font la vie des grands peuples. Une nation tend à projeter des types humains les plus brillants dans le domaine le plus conforme à son tempérament, celui qui exprime le mieux son idéal. En Inde, les grands saints, les grandes personnalités religieuses qui dominent et constituent d'âge en âge le plus étonnant palmarès de la grandeur, de même que Rome vécut surtout par ses guerriers, ses politiciens et ses hommes et ses chefs politiques. Dans l'Inde ancienne, le rishi était la figure dominante, devançant de peu le héros. Plus tard, d'autres traits se dessinent. Et nous voyons se former une longue chaîne ininterrompue, allant du Bouddha et de Mahavira jusqu'à Ramanuja, Chaitanya, Nanak, Ramdas, Tukaram, puis au-delà jusqu'à Ramakrishna, Vivekananda et Dayananda. Et aujourd'hui, nous sommes à l'anniversaire, le 12 janvier, de Vivekananda qui a aidé Sri Aurobindo. Mais on ne saurait oublier les remarquables accomplissements de divers hommes d'État et de souverains. Depuis l'aube de l'histoire connue qui s'ouvre sur les figures remarquables de Chandragupta, Chanakya, Ashoka et les empereurs Gupta et se poursuivit à travers les innombrables et célèbres figures hindoues et musulmanes du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Dans l'Inde ancienne, on vit naître des républiques, des oligarchies, des démocraties, de petits royaumes dont nul détail historique ne subsiste. Puis vinrent les longs labeurs pour édifier un empire, une colonisation de Ceylan et de l'archipel, les luttes virulentes qui accompagnèrent l'ascension et le déclin des dynasties pathanes et mongoles, le combat des hindous pour leur survie dans le sud, l'héroïsme des Rajputs, dont l'histoire a consacré la trace, le grand soulèvement national du Maharashtra qui pénétra jusqu'aux couches les plus profondes de la société, et le remarquable épisode de la Khalsa Sikh. La vie de cette Inde-là reste à peindre dans sa juste lumière. Une fois qu'elle le sera, bien des fictions s'évanouiront. Toute cette immense activité ne fut pas le fait d'hommes dépourvus d'intelligence, de volonté et de vitalité, de pâles ombres humaines dont la virilité aurait péri sous le poids d'un ascétisme sinistre et destructeur. Et cela ne semble pas non plus être la marque d'un peuple de l'esprit purement métaphysique ou des rêveurs ennemis de la vie et de l'action. C'est des systèmes, ceux qui agirent ainsi, qui planifièrent, conquirent, érigèrent de grands systèmes d'administration, fondèrent des royaumes et des empires, furent des grands protecteurs de la poésie, de l'art et de l'architecture. Et ceux qui plus tard résistèrent héroïquement au pouvoir impérial et bâtirent pour la liberté de leur clan ou de leur peuple ne furent pas des hommes de paille, des mannequins ou des marionnettes ou des rêveurs anémiques. Et elle ne fut certes pas dénuée de vie, cette nation qui préserva son existence et sa culture, qui tant de fois su renaître de ses cendres et qui résista aux chocs répétés et toujours plus forts de l'adversité. Le renouveau religieux, politique, culturel de l'âme moderne, que l'on qualifie parfois de renaissance et qui dérange et afflige si fort l'esprit de ses critiques, n'est que la répétition dans d'autres circonstances et sous une autre forme, et soutenue par un mouvement de masse plus large, plus faible aussi jusqu'à présent, d'un phénomène qui s'est constamment reproduit durant un millénaire. Mais dans l'Inde ancienne, si les classes supérieures étaient celles qui dirigeaient et se taillaient la part du lion dans les pouvoirs et les richesses de la vie, le peuple lui aussi vivait sa vie, et il l'a vécue même avec beaucoup d'intensité pendant longtemps, quoique dans un domaine plus réduit et de façon plus diffuse. Dans aucun autre pays, la vie religieuse ne fut aussi ardente. Ce peuple, en effet, assimila avec une remarquable aisance la pensée des philosophes et l'influence des saints. Il écouta et suivit le Bouddha et ceux nombreux qui se réclamèrent de lui. Il s'instruisait auprès des sannyasis et chanter les chants des Bhaktas et des Baouls, s'appropriant une partie de la plus belle, de la plus délicate littérature qui ait jamais vu le jour. Notre religion lui doit certaines de ses plus nobles figures, et parmi les hors castes n'attire des saints qui révéraient la communauté tout entière. Au premier âge de l'hindouisme, la masse prenait part à la vie politique et au gouvernement. C'est le peuple, les Vishas, du Veda, dont les rois étaient les chefs, mais qui, tout autant que dans les familles princières ou sacerdotales, l'on vit naître les Rishis. Ils géraient leurs villages comme de petites républiques autonomes, au temps des grands royaumes et des grands empires. Ils siégeaient dans les municipalités et les conseils urbains, et la majorité d'un conseil royal typique qui décrirent les livres de sciences politiques était composé d'hommes du commun, les Vaishyas, et non des brahmanes ou de nobles kshatriyas. Longuement, ils furent capables d'imposer au roi leur volonté, sans avoir à trop lutter, par la simple manifestation de leur déplaisir. Aussi longtemps que les royaumes hindous subsistèrent, quelque chose de ce système subsista également. Et même quand l'Asie centrale déferlèrent des forces de despotisme absolu, cette excroissance étrangère qui ne prit jamais racine en Inde. Il y demeura des vestiges de l'ancien édifice. Le peuple participait également à l'art et à la poésie, grâce auxquels l'essence de la culture indienne peut se propager et toucher les masses. Parallèlement aux grandes universités de l'Antiquité, il possédait son propre système d'éducation élémentaire et une forme de théâtre populaire. Hier encore, très vivante dans certaines régions du pays. Il donna à l'Inde ses artistes, ses architectes et nombre de poètes s'exprimant en dialecte populaire. Grâce au pouvoir de sa culture séculaire, il préserva son sens et sa faculté esthétique innée, dont l'ouvrage des artisans indiens portait d'âge en âge l'étonnant témoignage, jusqu'à ce qu'il soit détruit ou dégradé par la vulgarisation, la perte du sens esthétique, l'absence de beauté, ces cadeaux de la civilisation moderne. Et la vie en Inde n'était pas non plus une triste ou lugubre ascèse, comme l'esprit trop logique de notre critique voudrait nous le faire croire. Aucun peuple n'affiche une telle sérénité, un tel calme, et cette gravité, cette réserve parfois, en présence des étrangers, trompe l'observateur venu d'un autre pays. Il est vrai aussi que plus récemment l'ascétisme, la pauvreté et un puritanisme accru ont laissé des traces. Mais la vie que dépeint la littérature est joyeuse, colorée et aujourd'hui même, si l'humeur a parfois changé, si diverses forces incitent à la dépression, il n'en reste pas moins que le rire, l'humour, une grande souplesse d'esprit et une équanimité devant les vicissitudes de la vie constituent les traits saillants du caractère indien. L'Inde a richement vécu, mais elle n'a pas pris le temps de raconter son histoire. Son âme et son mental nous ont laissé de grands monuments. Mais ce qui nous est resté de ses accomplissements plus extérieurs et qui au demeurant n'était pas négligeable, est tombé dans l'oubli, ou vient seulement d'en sortir après des siècles d'abandon. Ce qu'il avait consignée avec exactitude, elle l'a laissée s'empoussiérer ou disparaître. Lorsque Monsieur Archer nous dit que notre histoire ne compte en aucune grande figure, cela signifie peut-être en réalité que son esprit ne parvient pas à les situer du fait que leurs paroles et leurs actes n'ont pas été minutieusement relevés, comme c'est la coutume en Occident. Leur personnalité, leur volonté créatrice, leur force n'apparaissent que dans leur œuvre ou dans quelques traditions et anecdotes révélatrices ou encore dans des annales complètes. Et la chose la plus curieuse et des plus fantaisistes, ce défaut a été attribué à un désintérêt ascétique pour la vie. L'Inde se serait si complètement absorbée dans l'éternel qu'elle en aurait délibérément méprisé et négligé le temps, si profondément concentrée dans la poursuite de méditation ascétique et de paix quiétiste qu'elle n'aurait pas eu que le dédain pour la mémoire des actes et s'en serait absolument désintéressée. Encore un mythe. Le même phénomène, une absence presque totale d'archives nationales, apparaît dans d'autres cultures antiques. Mais nul ne suggère que les archéologues ayant construit pour nous l'Égypte, la Syrie ou la Perse, pour une raison analogue, le génie de la Grèce, développant sur le tard une historiographie que l'Europe eut cœur à préserver. L'Inde et d'autres anciennes civilisations n'y sont pas parvenues ou ne se sont pas souciées d'en faire un art à part entière. Encore une fois, c'est là un défaut. Cependant, on se demande pourquoi, se fondant sur cet unique exemple, il faudrait s'ingénier à l'attribuer à quelque secret dessein ou à un manque d'intérêt pour la vie. Malgré ses défaillances, la grandeur passée de l'Inde, sa vitalité prodigieuse se révèle et s'impose de plus en plus à nos esprits à mesure que les recherches sur son passé exhument la masse immense des matériaux qu'il recèle. Notre critique persiste néanmoins à déclarer que l'Inde a quelque sorte vécu malgré elle, et dans cette foisonnante activité, il voit la preuve accablante de ce rachitisme de la volonté individuelle et de l'absence totale de grande personnalité. Il arrive à ses fins par des méthodes qui relèvent plus de l'habileté journalistique ou polémique que de l'esprit critique impartial. Alors, il nous dit par exemple que la contribution de l'Inde au panthéon universel se compte sur un seul doigt, deux ou tout au plus. Alors voilà, aujourd'hui, je termine les fondements de la culture indienne, la spiritualité indienne et la vie, chapitre 5. Alors, ce sont les fondements de la culture indienne de Sri Aurobindo. Je remercie intensément Sri Aurobindo de m'avoir permis de lire ce merveilleux livre des fondements de la culture indienne. Je remercie Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri, Bhavan. Thank you.
This is Auroville Radio, voices from the City of Dawn.